7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on est tous au fourneau, enfin presque, avec la bande des Afro-Cookers. On va parler des cuisines végétariennes sur le continent africain. Patates douces, manioc, niébé, lait de coco, les plats africains sans viande ont toujours existé. Aujourd'hui, les jeunes consomment plus de viande, c'est vrai, en Afrique, alors que les diasporas subissent ou choisissent le mouvement inverse. Et bien, on va mettre toutes ces tendances dans la marmite, on va bien secouer, on va se régaler en retrouvant des plats typiques africain, végétarien, avec Chef Anto. Bonjour Chef Anto.
Bonjour Emmanuel.
Quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes chef à domicile en région parisienne. On ne vous présente plus. Vous avez créé le festival We Eat Africa. On mange Afrique, puisqu'on mange chinois ou italien.
Oui, aussi.
Joséphine Codiani avec nous également. Bonjour.
Bonjour
Joséphine. Vous êtes cofondatrice du restaurant Le Niébé, qui est spécialisé en cuisine afro-vegan à Paris, près de Montparnasse. Et vous êtes d'origine ivoirienne.
Oui.
Ayaba Galba, bonjour.
Bonjour.
Blogueuse afro-vegan. Le blog, c'est Ndolo Touch, traduction.
Pincée d'amour.
Ndolo en
Douala, du Cameroun.
Et vous êtes sans viande, sans produits animaux, mais vous ne cassez pas de vitrine de boucher au moins.
Non, du tout pas.
Pacifique, ça c'est bien.
Exactement.
Ouais, parce que si on se fait la guerre, même en cuisine, alors là c'est le début de la fin quand même. Hein. On sera en ligne avec Jaoja, qui est jeune Guadeloupéenne, ayant ouvert un restaurant végétal à Cotonou, au Bénin. Et chez vous, les voisins et les voisines, on dit quoi? Que vous inspire cette cuisine? Dites-nous comment vous cuisinez vos légumes, vos racines, vos céréales. Quel est votre plat fétiche sans viande, sans poisson? De quoi vous régalez-vous? Appelez-nous pour partager au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Et vous pouvez poster bien sûr vos recettes et vos photos également sur notre fil Facebook. Voilà de quoi vous mettre en appétit. Loin des idées reçues, les cuisines africaines ont on va le découvrir, comporte beaucoup de plats végétariens. Et puis en fin d'émission, on ira à la rencontre de Christelle Vougeot-Annette et Franck Annette. C'est un couple à la ville comme au restaurant dans le business. Un couple passionné de cuisine à la tête de 3 restaurants et un service de traiteur à Abidjan. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je vais vous lire quelques messages postés par les Facebookers. Andrelis, qui est au Gabon, nous dit « Voilà un mets simple, délicieux et pas cher que j'aime beaucoup. Il s'agit d'aubergines à l'oseille. » Alors, il nous met entre parenthèses « feuilles d'hibiscus ».
Oui.
C'est la même chose ?
Oui, c'est la même chose.
D'accord. Ah oui, moi je confonds avec la fleur d'hibiscus,
oui,
qui
en
est
fait,
rouge.
Nous, on a connu en fait l'oseille en fait, avant la fleur. C'est les Ouest-Africains qui nous ont montré, en tout cas en Afrique centrale, qu'on pouvait en tout
également
cas,
manger la feuille.
Exactement.
Puisque la fleur, on la garde en général pour les infusions.
Exactement.
Le fameux bissap. Alors donc, je reprends la recette d'Andrélis qui est postée du Gabon. Aubergine à l'oseille accompagnée de bananes plantain cuites à la vapeur. On fait cuire les aubergines à la vapeur. On les écrase à la fourchette. Ça va, vous suivez?
Oui.
On fait revenir de l'oignon et de l'ail dans une casserole avec de l'huile d'arachide ou de tournesol. On rajoute les aubergines. Et puis on termine, on rajoute les feuilles d'oseille en lamelles et on laisse cuire 5 à 8 minutes. Ça a l'air délicieux.
Oui, c'est vraiment délicieux. Et ce qui est bien avec les feuilles d'oseille...
Donc c'est validé par Chef Anto.
Je valide.
N'est-ce pas,
parce que ça donne, si ça apporte un petit goût acidulé, en fait,
oui.
Les feuilles.
Et c'est absolument... En tout cas, ça a l'air très bon. Un plat végétarien qui inspire Evelyne à Douala. Alors elle, c'est feuilles de foléré. Donc,
c'est la même chose.
C'est la même chose. Ouais. C'est parce que les mots changent. Hein,
exactement.
Mais, donc toujours ces fameuses feuilles d'hibiscus et non pas de fleurs. Feuilles de foléré sautées avec du couscous,
oui,
de riz.
Très bon. C'est très bon. On cuisine aussi les feuilles de patates douces. Les gens ne le savent pas toujours, mais on cuisine la patate douce et on mange les feuilles de patates douces crues et cuites, comme les épinards en fait français.
Ouais. Ainsi que les feuilles de taro.
Donc cuit à l'étouffée, c'est ça?
À l'étouffée, que ce soit vapeur,
en
sauté,
sauce.
En sauce et tout ça.
Chiquito poste un message de Brazzaville. J'aime beaucoup les légumes accompagnés de viande de brousse. Donc là, on n'est plus dans le végétarien, mais bon, on peut enlever la viande, je ne sais pas. À savoir de la gazelle de Dolizy associée avec du manioc caillis. Bon, ben voilà. c'est pas du tout dans la thématique de l'émission aujourd'hui. En tout cas, vous nous appelez les voisins et les voisines. On parle cuisine, mais on revient à des fondamentaux, des plats sans viande et sans poisson, des plats végétariens, et on va découvrir qu'ils ont toujours été présents dans la cuisine africaine, souvent par nécessité d'ailleurs, mais pas que. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71, et bien sûr, vous nous suivez sur Facebook et sur Twitter en direct.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète sépare.
Un voisin à Yaoundé a posté sa recette sur WhatsApp.
Bonjour, moi c'est Ethan, Camerounais, Yaoundé. Quand je suis au Cameroun, j'adore une recette faite à base de maïs, d'arachide, qu'on appelle communément chez nous Ekumba. Ça mélange de, on prend 600 grammes de maïs qu'on mélange à du 100 grammes d'arachide, à la pâte d'arachide, on fait un mélange homogène qu'on emballe dans des feuilles de bananier. On met au feu pendant en moyenne même une heure, ensuite on enlève, on pose du charbon de bois pour sécher. C'est tellement bon. Et dire qu'on peut faire cela également avec la même recette, mais avec du manioc qu'on râpe. Et c'est tellement bon, c'est tellement succulent que moi j'adore quand je suis au pays.
Il adore. Alors, je ne sais pas d'où il nous appelle, d'où il poste son message WhatsApp. On entend RFI en fond. Il est peut-être dans un bus. Il ne faut pas parler trop fort, histoire de ne pas ébruiter la recette. Bon, c'est une espèce de galette de maïs, c'est ça ?
En fait, au Cameroun, il y a beaucoup de mets qu'on fait justement à l'étouffer, à la vapeur, dans les feuilles de bananier, comme une des spécialités qu'on appelle le coquille, le gâteau coquille, qui est fait pareil avec justement les graines de niébé, les haricots, qu'on appelle le coquille au Cameroun. Donc, comme l'hibiscus, le foléré, il y a plein d'appellations en fonction du pays d'Afrique. Et ils sont vraiment spécialisés dans ça, et ça donne des mets très onctueux, très fudgy, des gâteaux en fait cuits à la vapeur. Et c'est très bon.
Donc un petit peu croquant à l'extérieur et très très mou à l'intérieur ?
C'est plutôt pas forcément croquant, ça fait vraiment un peu comme une brioche. Cuit à l'étouffer, très onctueux, ce qu'on peut faire avec toutes les racines qu'on cuisine en Afrique, ou le maïs.
Même la texture souvent d'une terrine.
Voilà, exactement, une plus terrine.
Chef Anto Joséphine Kodiani à Yaba Galba, est-ce que vraiment il existe des plats végétariens en tant que tels en Afrique, Anto?
Oui, il y a des. Enfin, moi, je dis que nous avons des plats végétariens. Alors après, c'est vrai que. Nous, on ne se rend pas compte que ce sont des plats végétariens parce qu'ils font partie de notre quotidien. Moi, j'ai appris en France que c'était des plats végétariens, mais nous avons des plats végétariens et contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne mange pas autant de viande et de poisson sur toute l'Afrique, surtout dans des zones rurales où la viande coûte cher, le poisson coûte cher, et pour aussi des besoins de économiques.
La viande est importée, ou c'est une viande de brousse, hein, si vous parlez des zones rurales, parce que l'élevage, c'est pas toujours simple.
Exactement, mais ça coûte cher aussi en temps de temps.
Ouais,
parce qu'on la dépèce, il faut tuer nous-mêmes l'animal, le temps de dépecer.
Et problème de conservation aussi.
Exactement, et ce qui fait qu'on utilise, on cuisine souvent les viandes pour des grandes occasions, parce qu'on sait qu'il y a un grand événement, alors on prend le temps de cuisiner.
Mais oui, mais donc du coup, quand même, quand on dit cuisine végétarienne sur le continent africain, quand même cuisine sans viande et sans poisson, ça fait quand même, on fait ce qu'on peut, genre, non ?
Non, parce que finalement, les plats sont assez complets. Parce qu'entre les légumes, souvent, moi aussi, c'est en...
Non, mais c'est l'image qu'en ont les gens, quand même.
Oui, l'image aussi qu'on n'est pas repu, qu'il ne va pas avoir assez dans l'assiette. Alors que finalement, la cuisine africaine est tellement riche que j'ai aussi découvert toute une étendue de cuisine végétarienne en zone rurale, comme le précisait Anto. Et quand souvent, c'est des personnes aussi qui ont des potagers familiaux ou en collectivité, des groupements de femmes. Et du coup, quand on ajoute les aubergines pays, le gombo, les feuilles d'oseille ou de patates douces, tout ça, ça fait quand même un mets très riche et très diversifié.
Et pas même un petit goût de viande dans la sauce, un petit fumé.
En Afrique, il faut dire la vérité, quand il y a, enfin, pas manger de viande, c'est se sentir pauvre.
C'est ça aussi.
C'est se sentir pauvre. Donc j'entends ce que vous dites, mais ne pas avoir de viande, c'est pas un choix. Malheureusement, or que on peut très bien manger sans viande, et au village, comme dit Chef Anto, La viande, bah, elle n'arrive pas, bon, bah, c'est occasionnel. Le poisson, on n'est pas forcément au bord d'une rivière, donc ce n'est pas évident. Donc on échange même, moi dans mon village, on utilise pas mal de champignons pour justement avoir la texture de la viande. Mais c'est voilà, les mentalités, on l'a dit dur.
Vous avez découvert la cuisine, entre guillemets, sans viande, sans poisson, avec les vacances chez la grand-mère.
Avec les vacances chez la grand-mère Titi, oui.
Au village, au Gabon.
C'était au Gabon, et c'est vrai que... Non, c'était pas au village parce que elle vivait en ville, mais elle a grandi au village et elle mangeait très peu de viande et on était obligé
par habitude donc finalement.
Oui, par habitude et on était obligé de la supplier, s'il te plaît, fais-nous de la viande parce que elle n'en mangeait pas. Elle n'en mangeait quasiment pas.
Quel âge a votre grand-mère ?
Elle a eu 100 ans en avril.
D'accord.
En plus, voilà. En plus ça concerne, mais c'est vrai.
Elle a eu 100 ans en avril et c'est vrai que aussi loin que je m'en souvienne. Quand il y avait quelque chose, c'était du poisson, mais sinon c'était beaucoup de plats, de légumes, et elle arrivait à cuisiner les légumes sous toute forme que ce soit, et elle n'était pas pauvre. Franchement, c'était une femme de missionnaire. Enfin, c'est franchement, et c'est pour ça que aujourd'hui je travaille avec un organisme qui s'appelle ICRISAT, qui est basé au Mali, qui est l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, qui m'ont contactée au mois d'août. Et qui m'ont dit, on a énormément de jeunes qui délaissent nos produits parce qu'ils trouvent, comme justement Joséphine disait, que ça fait aliments de pauvres. Des aliments comme le sorgho, comme le niébé.
Le niébé, on l'appelle le haricot du pauvre.
Eh bien, il faut téléphoner à la grand-mère d'Anto qui ont justement
des propriétés nutritives très importantes et qui sont des smart foods, c'est-à-dire qui sont bons pour l'homme, pour la planète.
Encore faut-il connaître les recettes, encore faut-il savoir comment
cuisiner. Le Black Eyed Peas, aux États-Unis,
on est d'accord.
C'est
à nous d'aller à la recherche de ces recettes. Aujourd'hui, on a des jeunes de la diaspora qui se rendent compte de tout ce qui se passe en Occident et qui se disent finalement ce que nous avions sur le continent africain, finalement, c'était peut-être mieux. Et donc, ils reviennent à ces recettes et qui recherchent.
Il faut aller questionner les vieux au village.
Il faut aller questionner et il faut s'intéresser aux produits. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman nutritionniste qui me disait et que j'ai vu travailler justement dans sa PMI, il y avait des femmes qui étaient démunies, qui venaient et qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui disaient, voilà, si vous n'avez pas de poisson ou de viande, vous pouvez remplacer par tel aliment. Et les haricots et toutes ces légumineuses rentraient beaucoup, justement, dans la confection des plats, des recettes qu'elles leur donnaient pour pouvoir nourrir leur famille.
Il y a un plat à base de beignets de haricots au Cameroun.
Bah oui, on dit beignets haricots.
Beignets coquilles, beignets haricots, c'est pareil, oui.
Et qui se mange sans viande.
Alors, non seulement ça peut se manger sans viande, parce qu'en général, on l'accompagne juste de sauce pimentée, une sauce très, très, très relevée. Mais ce beignet coquille, justement, il se cuisine aussi au Bénin.
Comment c'est cuisiné, en fait, ces haricots?
Alors, c'est assez laborieux. on doit laisser tremper au moins une nuit pour qu'ils s'attendrissent, comme tous les haricots en général, pour qu'ils soient plus digestes. Ensuite, avec un pilon, c'est plus pratique, on enlève en fait les peaux, l'emballage en fait qui est autour du haricot. Une fois que c'est fait, on mixe le tout avec des épices, sel, poivre, le fameux poivre de Penja du Cameroun.
Une petite sauce tomate quand même, non ?
Oui, une petite sauce tomate qui ressemble à la sauce qu'on sert justement habituellement avec les pastels. Petite sauce tomate bien relevée, très pimentée au Cameroun, un peu moins relevée au Bénin parce qu'on cuisine aussi ses beignets au Bénin.
Et alors après, on trempe ça dans une pâte à beignets ?
En fait, on mixe le tout, on pile et ensuite on met tout simplement les beignets dans l'huile et ça fait les beignets, tout simplement. Le plus long, en fait, c'est la préparation. Une fois que la base est préparée, il y a juste à mettre dans l'huile.
Et le plus dur, c'est de faire cette émission en direct, juste avant l'heure du déjeuner, dire qu'on n'aura rien de tout ça ensuite.
Je voudrais juste préciser qu'on parle beaucoup en ce moment de la vague du sans gluten. Et vraiment, je pense qu'en Afrique, on est les champions du sans gluten.
Exactement.
Parce qu'au niveau du sorgho, le mil, le fonio au Mali, par exemple, est beaucoup préparé pour les cérémonies, les baptêmes. Et aujourd'hui, il est rentré dans la cuisine du quotidien. Et c'est un peu l'équivalent du quinoa, mais avec tellement plus de bienfaits, donc il ne faudrait pas s'en priver.
Appelez-nous les voisins, les voisines. Si vous vous intéressez à la cuisine sans viande, sans poisson, 33 1 84 22 71 71, on est preneur de vos idées, de vos recettes, de vos pratiques, de vos témoignages. January, frozen winter day, the body bus stop dancing the cold away. Bitter wind blow in the snow around, she don't notice, she captured by the sound. Coming through headphones from far away, songs that bring the light and sing the green up there. Sunstream making her troubles seem to be passing like a dream, yeah.
just petal flower. One time, don't know how she will endure. Tomorrow morning at the grocery store. But for the children, she will do all that and more. Work for the change of uniform. Time to kiss two cheeks and rush out the door. Manager uptight, the man ready to fight. He don't know what she does it for. Got a little in her talk. Swinging a walk, so her dancing by the stop. She's so tired, she can drop, but she won't slow down.
Scarborough Girl, Cobo Town, chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Cuisine végétarienne ou végétalienne. Alors là, il n'y a carrément plus... Il n'y a pas la viande, il n'y a pas le poisson. Végétalienne, il n'y a pas les œufs, il n'y a pas les produits laitiers.
Il n'y a pas le miel.
Il n'y a pas le miel. Ouais, là, ça va peut-être un peu loin quand même. On dit stop ou encore avec les plats végétariens en Afrique qui ont toujours été présents. Vous nous le racontiez, Chef Anto. En tout cas, on joint maintenant une Française originaire de Guadeloupe qui a ouvert un restaurant végétal à Cotonou, Bénin. Bonjour, Jaoja.
Oui, bonjour, RFI. Bonjour, les voisins et les voisines.
Soyez la bienvenue. Quel est votre parcours culinaire, alors, Jaoja?
Alors, mon parcours culinaire est un peu spécial parce que mes parents sont végétaliens il y a plus d'une quarantaine d'années avant ma naissance. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu-là.
En Guadeloupe?
Oui, déjà en Guadeloupe, et ça fait 21 ans que nous sommes venus au Bénin. Mmh. Après, j'ai fait aussi des formations dans des restaurants végétaliens spécialisés dans le domaine au Ghana. Donc, j'ai au moins 15 ans d'expérience dans la restauration végétalienne.
Et alors, aujourd'hui, quelle est la place de la cuisine végétarienne ou voire jusqu'à végétalienne au Bénin?
Eh bien, c'est une place qui est en train de grandir parce que de plus en plus en Afrique, comme partout dans le monde, il y a des nouvelles maladies, les AVC, ainsi de suite. Et les gens prennent conscience que très souvent, c'est ce qu'ils mangent aussi qui contribue à ces genres de maladies. Donc, en Afrique aussi, comme partout dans le monde, de plus en plus de personnes s'intéressent au végétarisme.
Et votre restaurant, alors, quelle est votre clientèle?
Alors, notre restaurant se trouve à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Donc, notre clientèle est plus une clientèle internationale parce que c'est plus eux qui ont déjà pris conscience du bienfait du végétal. Mais il y a aussi deux autres restaurants végétaliens au Bénin qui sont fréquentés presque que par des Béninois parce que c'est plus dans le centre de la ville. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens prennent conscience que retourner vers le végétal, c'est faire de sa nourriture sa santé.
Mmh. Quel est le plat qui vous a couronné, Jaoja? La spécialité qui fait oublier l'absence de viande, en gros.
Bon, un des plats qui nous couronne, c'est le haïtal, parce que je fais partie du mouvement Rastafari. Et le haïtal, c'est un mélange de légumes, de féculents, de lait de coco, de tofu. Donc, c'est un des plats que nos clients apprécient beaucoup parce qu'ils retrouvent un peu tout ce qu'on peut retrouver dans un jardin biologique, mais ils peuvent le retrouver dans le plat avec le lait de coco qui le couronne. Donc, ça, c'est un des plats qui marche très bien.
Mmh. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mouvement, sur cette communauté Rastafari avec des plats finalement à la fois africains, caribéens?
Alors, je suis la fille de la famille Dja. La famille Dja, c'est une famille de la Guadeloupe qui ont fait le retour en terre africaine au Bénin parce que nous savons que nos ancêtres sont des Africains et nous faisons partie du mouvement Rastafari. Le mouvement Rastafari, c'est un mouvement qui veut retourner vers la nature, vers les choses naturelles, le biologique. Donc voilà pourquoi nous sommes les spécialistes et les garants aussi de la cuisine végétalienne.
Alors vous proposez notamment une omelette végétalienne.
Oui.
Comment on fait là?
Alors nous proposons une omelette végétalienne
donc,
qui est à
donc
base de
sans œufs. On poids. Est d'accord.
Ah oui, bien sûr, sans œufs, sans lait, sans fromage.
Ah oui.
Donc l'omelette végétalienne est à base de farine de pois chiche, de condiments, ail, oignons, tomates, persil, céleri, du sel aussi, et voilà, et c'est excellent.
Ouais, mais enfin c'est plus une omelette. On est d'accord, hein.
Mais ça, quand vous le voyez, ça a la texture d'une omelette, et nos clients quand ils le goûtent, ils disent que oui. C'est comme une omelette, seulement qu'elle est végétalienne.
Uh-huh. Je l'ai en photo, je vais vous la montrer, Emmanuel.
Oui, mais alors quand même, Jaoja,
oui?
clairement, là, vous nous parlez d'une cuisine qui est quand même importée par rapport aux traditions béninoises.
Vous savez, je pense que le bien n'est jamais importé et que le bien est international.
Non, 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 mais on est bien d'accord que la cuisine, par définition, c'est un métissage. D'accord. Mais néanmoins, vous ne vous référez pas à des recettes traditionnelles au village.
Bon, après, c'est sûr qu'au Bénin, quand même, il y a plein de recettes aussi qui sont sans viande, sans poisson. Qui sont sans viande, sans poisson. Mais après ça, c'est vrai que c'est plus une cuisine que dans la diaspora, nous avons plus développé dans le monde international.
Alors, Ayaba est en train de me montrer une photo sur son smartphone de la fameuse omelette.
C'est mon omelette, mais elle est faite pareil, végétalienne, à base de farine de pois chiche, d'eau, et puis après, garnie de légumes.
Ouais, je confirme, effectivement, sur la photo, ça ressemble vraiment à une
omelette.
Et j'en
ai fait une autre où on fait les deux omelettes à l'intérieur, un peu comme une frittata, on met tous les légumes sautés, c'est un régal.
Jaoja, finalement, en conclusion, jamais vous ne ressentez le manque de viande ou de poisson pour finalement pour libérer toute la saveur d'un plat?
Ah non, pas du tout. Et je pense que le manque ne vient pas. J'ai deux enfants. J'ai un enfant de 18 ans et un enfant d'un mois. Ils sont nés végétaliens, en bonne santé. La maladie, on ne connaît pas. Hippocrate disait de faire de sa nourriture sa
son
santé. Et je pense que vraiment, de faire de sa nourriture son médicament. Et je pense que c'est vraiment vrai. Parce que quand vous mangez des fruits, des légumes, des féculents, eh bien vous êtes déjà en train de mettre en vous des vitamines et des choses qui vous permettent de rester en bonne santé. Et une de nos spécialités aussi, c'est la brochette de soja. Parce que très souvent, les gens disent « Oui, mais vous remplacez la viande par quoi ?» Le soja est très riche. Donc, nous faisons les brochettes de soja, les protéines. Nous faisons aussi le tofu que nous fabriquons nous-mêmes, le lait de soja. Donc, vraiment, la nourriture végétalienne, c'est quelque chose qui est complet.
Oui. Et je peux témoigner, hein, j'ai goûté, j'ai jamais mangé du soja de ma vie, aussi bon que chez la famille Dja. Il est fait sur place et c'est incroyable en termes de goût, ça n'a rien à voir avec le soja qu'on trouve de façon industrielle.
Donc on en fait une pâte pour l'enfiler sur des brochettes, c'est bien ça?
Oui, en fait, il est travaillé, il y a du lait qui est fait avec, on le fermente et ensuite on récupère en fait ce qui est fermenté, la pâte, comme dans tout processus en fait de cuisine où il y a la fermentation dans la cuisine africaine et on en fait une viande, mais chez la leur en particulier est exceptionnelle.
Jaoja, merci d'avoir été en ligne avec nous. Le restaurant est situé pas très loin de l'aéroport. Hein. Je crois que vous êtes assez connu à Cotonou.
Voilà, ça s'appelle le régal végétal et c'est un régal.
On vous laisse retourner en cuisine. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui
merci
à vos clients
beaucoup.
Qu'est-ce que vous allez proposer là aux clients aujourd'hui? Il y aura un plat du jour?
Alors aujourd'hui, comme plat du jour, nous allons proposer le colombo de soja accompagné de légumes et de crudités.
Bon, eh ben, c'est
alors,
dur.
Le colombo de soja, c'est du riz, de la salade et une sauce de légumes, choux, carottes, haricots verts avec des boulettes de soja et du curry parce que nous venons des Caraïbes et le curry est très utilisé là-bas.
Eh ben, c'est incroyable, mais vous savez, on sent déjà la vapeur, là, la petite fumée au-dessus du plat qui arrive jusque dans le studio. C'est assez difficile comme situation. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Très, très bonne journée.
C'est pour moi, je vous remercie. À bientôt.
Très, très bonne journée à Cotonou. Vous nous appelez, les voisins, évidemment, si vous voulez contribuer à l'émission. On parle de cuisine végétarienne ou végétalienne sur le continent africain. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Joséphine Codiani, alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette tradition? Parce que votre restaurant, le Niébé, qui est spécialisé en cuisine afro-vegan et qui se situe là à Paris, près de Montparnasse, lui aussi s'inspire de traditions pas exclusivement africaines.
Pas exclusivement africaines, pardon, mais nous ne sommes pas un restaurant uniquement vegan. Nous faisons, justement, c'est un vrai choix de la part de Anne et de moi, c'est que tout le monde puisse venir manger dans ce restaurant. Donc, voilà.
C'est ça, il est spécialisé. C'est un endroit convivial. Il y a des plats qui sont
On fait des plats classiques.
Très aboutis et en afro-vegan. Et puis, des plats afro avec de la viande.
Oui, voilà. Oui,
hein, on est bien d'accord. Mais comment vous vous situez? Parce qu'en réalité, votre restaurant, il subit aussi des influences avec des saveurs africaines, mais des saveurs brésiliennes également, des saveurs créoles.
En fait, ça rassemble beaucoup plus de monde, parce que souvent, les gens pensent que c'est vegan, c'est austère, c'est triste, ouais. On mange des graines, on est blafard, alors qu'on peut avoir un vegan joyeux, on y met des épices, c'est vivant, c'est de la nourriture et voilà, on peut se faire plaisir aussi. Donc et d'ailleurs au restaurant, justement, les gens, tout le monde peut venir manger ensemble, parce que j'imagine que dans une famille, quand certains sont devenus véganes, ça les a un petit peu séparés, on mange plus vraiment ensemble, ou on prend ses dispositions avant d'aller chez ses parents parce qu'on a peur qu'il y ait, voilà. Donc j'ai pu observer des fois des vrais moments de convivialité, de chaleur, deux personnes qui mangeaient à la même table. Une qui prenait un mafé classique et l'autre prenait un mafé vegan et ils se régalaient de la même façon. Et voilà, donc le partage est là. Donc ça, c'est assez sympa de pouvoir combiner les deux.
Et Jean-Jacques qui se réclamait du mouvement Rastafari, est-ce que vous réclamez du mouvement Soul Food?
Oui, parce que c'est une cuisine qui réchauffe l'âme.
C'est plus précis que ça, le mouvement Soul Food, parce que c'est quand même une cuisine traditionnelle afro-américaine qui est héritée de la période de l'esclavage.
Mais c'est hérité de l'Afrique. Oui. Je veux dire, c'est un afro-américain.
Pour expliquer aux auditeurs ce que c'est la Soul Food.
C'est la cuisine des esclaves. Oui. C'est la cuisine des esclaves. Et donc, elle est originaire d'Afrique. Elle est donc c'était ce que les maîtres voulaient bien leur laisser et ils ont réussi à travailler ces produits et en faire quelque chose de bon, de très bon, de réconfortant.
En s'inspirant
de leurs racines africaines.
Et aussi, il faut savoir que les esclaves, ils étaient un peu métissés parce qu'ils venaient un peu de partout et ils ont contribué à chacun apporter en fait un peu de sa culture dans ce mouvement Soul Food.
Mais alors vous, concrètement, par exemple, un mafé sans viande. Comment vous faites?
Déjà dans la restauration, les sauces ne sont pas cuites avec les viandes pour la conservation, pour plein de choses. Donc on fait notre mafé nous-mêmes, c'est-à-dire que l'arachide, on fait la pâte d'arachide nous-mêmes pour éviter tout ce qui est conservateur. Voilà, et puis on a une clientèle végane, donc on essaye d'être le plus près de la nature des animaux. Donc voilà, donc la sauce, elle est à part. Et après, on mijote la viande ou le seitan. Nous, on utilise du seitan pour le mafé vegan. Le seitan, c'est une protéine de blé mélangée à du tofu fumé qui donne une petite
texture
de viande. Il y a même des clients qui ont vraiment voulu arrêter la viande pour la viande. Et quand ils se trouvent, quand ils mangent du seitan, ils sont un peu gênés par la texture. Il y en a même un client qui m'a demandé de lui jurer que c'était pas de la viande. Tellement il était parce que c'est assez bluffant quand même, le seitan. Ce qui permet à des gens justement qui ne connaissent pas les plats véganes d'essayer avec le seitan, ils ont moins peur. Voilà, c'est moins.
Le plat qui vous a couronné, sans viande, sans poisson.
Le plat qui nous a couronné sans viande, sans poisson, au restaurant, c'est vraiment les deux qui marchent très bien. C'est la feijoada vegan et le mafé vegan.
Brésilienne.
Voilà.
Avec des haricots.
C'est des haricots noirs. Mais la feijoada, c'est un confit de haricots noirs avec de la viande de porc fumée, séchée, salée. Enfin, c'est le plat, vraiment, il y a beaucoup de viande. Et nous, on l'a revisité donc avec du tofu, du seitan, justement pour le côté fumé. Et les véganes se régalent, quoi. Ils arrivent à.
Et vous proposez les deux versions ?
Les deux versions.
C'est ça. Ouais, ce non, c'est pas un ce restaurant intégriste, hein, il faut le préciser.
Voilà, c'est.
Oui, non, mais le but, c'est de pas. On n'a pas envie de dire aux auditeurs qu'il faut complètement abandonner la viande, le poisson, et il faut être végane.
C'est une forme d'intelligence. Oui, et puis de.
Il faut que tout le monde s'y retrouve.
Bien tout le monde s'y retrouve.
Et on peut leur dire aussi de ne pas déculpabiliser ceux qui veulent tendre vers ces nouvelles formes de restauration, qu'il faut qu'ils comprennent que la cuisine, ça s'invente aussi, c'est aussi à eux de créer leurs recettes, et qu'il y a des recettes très intéressantes. On peut faire tellement de choses avec ces produits, sans viande, sans poisson, et que ceux qui ne mangent que comme ça, qui ne se culpabilisent pas non plus en se disant qu'ils sont pauvres, au contraire, ils sont beaucoup plus riches que ce qu'ils ne pensent.
Une question d'auditeur, Moustapha, qui est à Chelles, nous demande, est-ce qu'on peut être sûr à 100% de consommer du sans gluten en Côte d'Ivoire? Je dois y aller avec mon fils, qui a la maladie de Célia, qui ne doit absolument pas manger de gluten. Mais quand on vous écoute, mesdames, alors...
Naturellement, il y a plein de produits qui sont sans gluten, il suffit de demander.
Oui. Le fonio, le mil,
le manioc, donc la tchéké de Côte d'Ivoire,
Donc la tchéké de Côte d'Ivoire, après,
oui, il y a sans manioc. Toutes nos tubercules n'ont pas de gluten, voilà. Déjà, donc. De base. Donc en plus le riz, nos céréales n'ont pas de gluten.
Le mil,
tant que ce n'est pas du blé, donc il peut aller en Côte d'Ivoire sans problème. Il y a juste à demander ce que c'est.
Voilà.
Voilà pour ce voisin qui était en région parisienne. Également un voisin qui nous poste un message de Cotonou. Régis, mon plat préféré, c'est abobo. C'est une purée d'haricots accompagnée de friture et à la place de la sauce magie, on écrase de la crevette fumée. La sauce magie, c'est le cube magie.
Oui,
dire,
ça,
c'est
oui,
ça.
Là, oui.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et à la place, on écrase de la crevette fumée. Commentaire validé ou pas par Chef Anto?
Oui, bah, y a justement, on a beaucoup aussi de petites crevettes. Pour ceux qui n'avaient justement pas les moyens d'avoir de la viande, bah, c'est souvent des tout petits poissons fumés, séchés et des crustacés aussi qui aidaient à donner un peu de goût, qui sont fumés, séchés, qui aidaient à donner du goût justement à nos plats. Et je sais que par exemple, ma grand-mère, c'était les feuilles de manioc, qui pour moi vraiment est le plat pour moi végétarien qu'on mangeait, qu'on pouvait manger en France avec du riz, de la banane, du manioc. Et dedans, elle mettait souvent des tout petits poissons séchés ou des petites crevettes séchées pour donner un peu de goût, surtout pour nous.
C'est presque un plat végétarien.
Oui, bien sûr.
Bah, au Mali, on utilise le soumbala, qui est en fait une poudre qui est confectionnée à partir des graines de néré. Donc, graines de néré qui vient d'un arbre. Et donc, ça remplace, en fait, c'est un substitut du cube, des cubes d'assaisonnement que l'on connaît dans le commerce ici et là-bas. Et ça assaisonne très bien et ça sent très, très fort, un peu comme le poisson séché. Et ça fonctionne très bien. Et moi, c'est avec ça, entre autres, que je fais mon mafé vegan avec de la poudre de gombo séché. Parce que dans le mafé traditionnel, normalement, pour apporter le gluant, on y introduit le gombo séché. Après, il y a mille et une façons de cuisiner le mafé, le bouta, la sauce arachide en fonction du pays d'où on vient, et même en zone rurale, au Mali même, en fonction de là où vous êtes, on cuisine pas la sauce arachide de la même façon et on lui donne pas la même appellation. Et moi, on m'a fait vegan et j'ai mis la recette justement parce que c'est un classique dans le hibou qu'on mange Afrique vegan, et je l'ai fait à base d'épinards, sauce arachide aux épinards avec plein d'autres légumes comme les aubergines africaines, et du coup on n'y trouve pas du tout ce manque, cette lacune de viande, même si j'ai hâte de goûter celui du restaurant de ma voisine avec les 7 ans.
Nous, on y met aussi la petite aubergine diacato.
Oui, voilà.
On met diacato, on met
la carotte, la patate douce,
voilà. Un peu de manioc pour...
On va se retrouver, je pense. J'ai hâte de goûter le sien parce que je pense que je le fais à peu près pareil sans le sétan, et il y est justement dans le e-book On mange Afrique vegan.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut préparer un peu à l'avance, notamment vous parliez de ces poudres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les familles sont de plus en plus pressées et que cuisiner très honnêtement sans viande, sans poisson, souvent ça peut apparaître comme beaucoup plus long avec beaucoup plus de manipulation.
Le soumbala, c'est vendu tel quel. Hein. On va au magasin, on achète la poudre.
En poudre,
on peut acheter les graines de néré, mais ça demande du travail. Ou on achète la poudre de soumbala, c'est entièrement vegan. Ça ne va pas dans tous les plats, mais c'est très fort et ça aromatise très très bien, en plus de toutes les autres herbes et condiments. Hein.
Bah, cuisiner avec de la viande, ça prend plus de temps que cuisiner sans
Exactement.
Viande.
Hein.
Donc, pour ceux qui sont pressés, bah, ils peuvent cuisiner très bien.
La seule chose qui prend du temps, c'est toutes les légumineuses type haricots qui,
demandent
un temps de trempage. Mais même quand on mange de la viande, elles demandent aussi un temps de trempage.
J'aimerais bien quelques recettes un peu précises pour les auditeurs. Aya Bagalba, un ou deux plats qui vous régalent. Moi, j'ai vu qu'il y avait, vous pratiquez une sauce au lait de coco et bouillie. Donc le bouillie, c'est le pur pulpe, la pulpe que l'on trouve à l'intérieur du baobab.
Tout hein, à fait, le pain de singe, la pulpe.
On achète d'ailleurs facilement en poudre.
Tout à fait, on peut l'acheter en poudre ou en forme de bonbon, comme on l'appelle au pays, avec la petite graine dedans, mais maintenant on le trouve en poudre. Oui.
Et moi je le rajoute juste à la fin. Il y a un petit goût acidulé.
Tout à fait.
Exactement, laiteux et acidulé.
J'ai deux recettes dans le e-book à base de bouille. Il y a la panna cotta au bouille et au lait de coco, parce que les deux vont très bien ensemble. Souvent on associe le lait de coco avec le citron vert. Donc là il y a une panna cotta au lait de coco, citron vert et bouille. Et justement, au lieu de trop forcer sur l'agrume et le citron vert, on y met le bouille qui a énormément de bienfaits et en plus
donc,
qui est énormément utilisé.
C'est comment on procède ?
Ben, c'est très très simple. Vous mettez votre lait de coco, à chauffer. Moi, je rajoute un autre lait végétal pour pas que ce soit trop trop épais. Puis ensuite, on y met les arômes qu'on veut, donc vanille. Moi, je fais très simple. Et vous mettez l'agar agar. Vous laissez reprendre l'ébullition.
Ça, c'est une algue. On ne l'a pas forcément apporté de
l'agar. Mais l'agar agar végétal, maintenant, ça se trouve assez facilement. Et on laisse ça reposer au frigo et c'est fini. Et puis pour le côté gourmand, moi j'ai ajouté un petit coulis de fruits, soit de bissap, soit de mangue.
Et puis sinon, la sauce au lait de coco et bouille avec que vous utilisez notamment pour faire du pain perdu, pour
vous avez creusé, hein.
C'est surtout mis en appétit aussi.
Alors la sauce au bouille et lait de coco, ça pour le coup, c'est vraiment une création d'Ayaba, de Ndolo Touch. Elle m'est venue en fait d'une petite anecdote. Il me manquait du citron en cuisine et moi en fait j'associe vraiment la saveur, c'est comme ça hein, dans mon imaginaire culinaire, qui dit lait de coco dit petit jus de citron vert à la fin de sur mon plat. Et là il me manquait du jus de citron vert
pour finalement contrebalancer le côté un peu doux saveur du lait de coco.
Voilà, exactement. Et là j'avais pas ça et je cherchais quoi mettre et je suis tombée sur le bouillis, c'est acidulé. Allez, oui. On essaye. Et ça a matché, c'était parfait.
Ouais. Poudre de baobab, il faut y revenir.
Donc,
c'est
énormément
super bon.
C'est super bon. Et quand on voit combien... Moi, j'ai dû en acheter il n'y a pas très longtemps, parce que je n'en trouvais pas. Et je l'ai acheté à 15 euros le kilo, c'est-à-dire 10 000 francs CFA.
Où ça ?
Dans un magasin bio.
Non mais
ici à Paris,
d'accord,
oui, à Paris, et ça coûte extrêmement cher ici.
Oui, mais c'est beaucoup moins cher sur le continent africain.
Oui, des produits que nous on néglige en fait sur le continent, alors qu'ici ça a prix d'or.
Donc vous êtes en train de dire aux voisins qui nous écoutent sur le continent africain, c'est ça, c'est à prix d'or. Profitez-en,
bien
vous l'avez moins cher. C'est très nutritif.
C'est très nutritif et ça a de très bonnes propriétés pour nous.
Une petite recette de croquettes d'igname.
Celle-ci, c'est une des préférées justement d'une dame qui me suit sur les réseaux sociaux, qui a acheté le e-book. Très simple, on retire comme...
Alors
dans...
attendez, on prend... Non mais
on prend l'igname.
Commençons par le début.
On prend l'igname. On prend sa belle râpe traditionnelle ou si on a un robot, mais les recettes du e-book ont été faites pour qu'elles puissent être faites sur le continent.
D'accord, mais là déjà galère quand même de râper l'igname.
Non, on prend l'igname, on enlève la peau avec son économe, son éplucheur. Puis ensuite on râpe l'igname avec sa râpe traditionnelle. On met le tout dans un tissu propre et on presse pour extraire toute l'eau, tout l'excédent de l'eau de la racine. Et ensuite, on rouvre. On met le sel, le poivre, ce qu'on aime comme condiment. On forme des petites croquettes et on les met dans l'huile et c'est fini. Et pour le coup, j'ai sur un de mes ateliers une follower qui l'a essayé. Elle m'a dit, c'est super simple et c'est super bon.
Anto, vous n'avez pas encore donné vos recettes réellement. On a entendu parler de votre grand-mère, vos recettes de plats végétariens. Comment vous revisitez cette cuisine végétarienne africaine à la mode chef Anto ?
Alors, comment je revisite cette cuisine ? Il y a, par exemple, ce que j'ai ramené là sur le plateau, que j'appelle, c'est des crackers à la farine de sorgho, qui sont en fait, en faisant mes recherches sur cette farine, j'ai découvert qu'en Inde, ils utilisaient cette farine, et je me suis dit, pourquoi pas tester la recette indienne, mais à l'adapter avec des produits africains. Et donc, on a 250 grammes de farine de sorgho, avec 5 cuillères à soupe d'huile.
Pour ceux qui le voient en vidéo.
On peut mettre de l'huile de coco pour plus parfumer notre pâte à biscuits, on peut mettre, en tout cas, c'est de l'huile végétale. Vous mettez une cuillère à soupe de netetou qu'on appelle sumbala, sumara, qu'on appelle graines de néré.
Alors attendez, justement ça tombe bien, il y a Camilla qui poste de Lubumbashi, qui a 23 ans, qui veut savoir, qu'on rappelle exactement ce que c'est que le sumbala.
Alors le sumbala ou graines de néré, le nom français c'est graines de néré, en fait ce sont des petites, c'est une gousse qui donne des graines, et ces graines-là, on les utilise beaucoup, notamment en Afrique de l'Ouest, comme épices pour assaisonner les sauces. Alors moi, j'aime beaucoup cette épice parce qu'elle donne un petit goût de parmesan. Moi, ça me rappelle le parmesan. Quand je cuis mon riz, hier, par exemple, j'ai fait du riz sauté à mon mari. Il m'a dit, ah, ça sent le fromage. J'ai dit, il n'y a pas de fromage. Et en fait, c'était le soumbala que j'avais fait, voilà, dans. Et donc, suivant les pays, c'est un nom différent. Au Sénégal, on va entendre beaucoup de Nététou. En Côte d'Ivoire, ils disent soumara. Il y a des endroits, on va dire, soumbala. Mais c'est le même produit. Ce sont ces graines de néré qui, lorsqu'elles sont réduites en poudre, donnent une petite... c'est marron foncé. Ouais. Et donc, pour la recette, pour continuer, on a donc 250 grammes de farine, cuillère à soupe de soumbala, une cuillère à café de soumbala, une cuillère à café de cancancan, qui est du piment en poudre, de Côte d'Ivoire, mais qui est mélangé souvent avec du gingembre et du poivre. On a une cuillère à café de muscade en poudre, du sel. On fait notre pâte, on rajoute de l'eau chaude, donc 10 centilitres à peu près pour 250 grammes. On fait notre pâte à biscuits. Ensuite, on l'étale avec une bouteille ou avec un rouleau à pâtisserie.
Et après, on découpe, on fait les biscuits.
On découpe et
donc
on met
au
four.
Donc, c'est de la farine, des épices, de l'eau,
exactement,
une pâte. Et ensuite, on découpe et on met au four.
Exactement. Ce dessus, on peut rajouter...
On peut faire la version
sucrée si on veut. Mais ça, par exemple, en apéritif, pourquoi pas. En plus, comme le sorgho, c'est une farine qui donne quand même assez soif. Donc, moi, je conseille toujours de manger ça avec une bonne boisson fraîche ou un bon thé chaud.
Eh ben, merci pour toutes ces recettes, chef Anto, Joséphine Kodiani, Ayaba Galba. Vous restez avec nous avant de se quitter en dernière partie d'émission. Dans quelques instants, rencontre avec un couple de restaurateurs à Abidjan. Alors là, on quitte complètement l'univers de la cuisine végétarienne, mais pas le domaine du business et de la restauration. Manu Dibango chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et on parle cuisine. Rencontre maintenant avec un couple cuisine et business, je dirais. Christelle Vougo-Annette et Franck Annette, en couple à la ville. Ils sont rentrés dans leur pays, la Côte d'Ivoire, en 2010, en pleine crise. Ils ont évidemment surmonté de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, ils sont les rois de la marmite, à la tête de 3 restaurants et un service de traiteur à Abidjan. Florel Manda les a rencontrés.
Moi, je suis chef de cuisine et Franck fait le reste, en fait. Il fait le plus dur. Tout ce qui est derrière, administratif, je fais vraiment 10% du boulot, il fait tout le reste, quoi.
Ça, c'est vraiment théorique, hein, parce qu'en réalité, on intervient tous les deux sur tous les sujets. Que ce soit la cuisine, et fait pas un plat sans que je valide. Je prends pas de décision de ressources humaines sans qu'elle valide.
Là, on est au Sakan. Donc c'est le restaurant de cuisine africaine en plein quartier des affaires au plateau.
Ça a quand été ouvert en 2012. On l'a déplacé en 2014 dans le centre des affaires. Et ensuite là, il vient de s'agrandir parce qu'effectivement, il y avait une demande un peu plus importante.
Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en Côte d'Ivoire et pas à rester en Occident ?
le premier resto dans lequel j'ai bossé aux States et que j'ai vu comment ils étaient évolués. Tout ce que j'avais en tête, c'était de revenir faire ça chez moi. Je veux dire, faire plaisir aux Ivoiriens, montrer si on fait ça à Abidjan, mon Dieu, c'est la bombe, quoi.
Et un retour au pays, comment ça se passe ?
C'est difficile, choc des mentalités. C'est vrai qu'on a grandi là, et que, mais une fois que tu pars et que tu rentres dans le moule occidental, il y a des choses qui ne te paraissent plus normales.
Quoi, par exemple ? Ça m'intrigue.
Le fait de ne pas croire en, que le travail paye, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment, on fait aujourd'hui beaucoup plus de coaching que de training professionnel. Tu passes plus de temps à faire ça qu'à expliquer à un gars comment est-ce qu'on attrape une assiette, ou bien comment est-ce qu'on attrape un verre, ou bien comment est-ce qu'on cuit ça, ou bien comment est-ce qu'on utilise un four.
Mais on est bien conscient que ce n'est pas la faute de la population. On sait très bien qu'une population qui n'a pas assez de mentors et qui a eu beaucoup de crises politiques, c'est difficile, mais on a eu la chance de voir autre chose. On ne va jamais dire « bon, c'est comme ça ici, on fait comme ça ».
Tous ceux qui viennent ici aujourd'hui, quelles que soient les idées et les financements, ont du mal à trouver du personnel qualifié et donc il faut les former et les gens ont du mal à former.
Trois établissements, un service de traiteur, c'est un véritable empire que vous avez créé.
Empire où ? Non, après, ça fait plaisir. Je veux dire, honnêtement, on était fous. On n'a jamais calculé. Là, pour le moment, par exemple, pour le problème dont on parle, on va vraiment bloquer quelques années, une ou deux années, avant de faire quelque chose d'autre, parce qu'on a besoin encore de former des gens, de faire monter les équipes au niveau qu'il faut pour supporter d'autres business. C'est clair qu'on est fiers, quoi, de ce qu'on a fait, quand même. Hein?
Pour tous ceux qui connaissent Franck et Christelle, c'est... Aujourd'hui, on reçoit un prix et une heure après, l'euphorie, on dit, bon, franchement, il faut qu'on arrange ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Donc, oui, on est fiers, mais on n'arrête jamais de travailler.
Peut-être que du coup, le prochain établissement, ça pourrait être un centre de formation.
Ben, je pense que c'est déjà ce qu'on fait. Hein. Peut-être que c'est pas officiel, quoi, mais je veux dire, on passe notre temps à former des gens et on en est conscient en fait. Tous ceux qui sont managers, tous ceux qui sont chefs de cuisine, tous ceux qui sont aux achats et tout, sont des gars qui ont été formés, qui ont commencé au bas de l'échelle. On tient vraiment à apporter aussi à la population, enfin aux jeunes qui ont épousé notre industrie, ce qu'on a appris aux États-Unis, l'énergie qu'on a, la dynamique qu'on a, tout ça, on veut vraiment partager. On cache rien du tout ici. Je pense que ce qui nous différencie des autres restaurateurs, c'est peut-être le fait qu'on fasse des concepts différents et surtout que les restaurants ne dépendent pas de nous parce qu'on a des restaurants qui sont indépendants. Et je pense que c'est ce qui est différent à Abidjan.
Et les nombreux prix que vous avez reçus, ça joue aussi ça sur l'image de marque, j'imagine.
Oui, bien sûr, les Ivoiriens sont fiers. Ils sont vraiment très contents parce qu'avant nous, comme on a dit, il n'y avait pas beaucoup forcément de jeunes locaux qui s'investissaient dans cette industrie. Les Ivoiriens sont fiers et en même temps, nous par exemple, on remarque que quand les Ivoiriens viennent chez nous, ils sont beaucoup plus exigeants que quand ils vont ailleurs. Nous, ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'ils nous poussent, quoi. Ils veulent vraiment qu'on aille à chaque fois plus loin, que ce soit parfait. Et voilà, donc ça emmène beaucoup de fierté et puis nous, beaucoup de pression.
On a énormément de feedback. Je pense que quand tu vas dans le business de quelqu'un et que tu lui donnes ton feedback, c'est vraiment parce que tu veux qu'il s'améliore.
Chef Ando, et alors vous, quand est-ce que vous ouvrez un restaurant au Gabon ? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre d'expérience ?
C'est incroyable. C'est incroyable et c'est vrai que c'est courageux aussi de repartir sur le continent et de partir de zéro. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, on ne nous accueille pas toujours les bras ouverts quand on vient de la diaspora. Et comme il disait, souvent ils sont plus exigeants avec nous que ceux qui sont déjà sur place. Mais je trouve que c'est une histoire formidable. Et moi, j'y pense au restaurant. Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir le faire, mais ça trotte dans ma tête. Mais c'est vrai que c'est un rêve caché de me dire que je reviendrai au pays et que les gens auront l'opportunité de venir tous les jours et de manger ma cuisine.
Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, Joséphine Kodiani, dans la restauration en général ?
C'est de faire plaisir à tout le monde.
Non, vraiment. Ah oui, c'est bien ce qu'il disait.
C'est de faire plaisir à tout le monde. Mais à partir du moment où vous êtes... C'est un vrai métier, il faut en avoir envie. Faut vouloir le partager avec les autres et pas juger, quoi, toujours être dans le partage, dans le don.
En tout cas, c'est ce que vous avez fait toutes les trois aujourd'hui.
Et se remettre en question tout le temps. Merci à toutes les trois de nous avoir
fait partager vos coups de cœur pour vous, et vos recettes, surtout végétariennes, africaines. Chef Anto, Joséphine Kodiani, Ayaba Galba, c'est le blog Ndolo Touch. Merci aussi à toute l'équipe. Et demain, 7 milliards de voisins, à quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, on va s'intéresser à l'école publique et à ses profs sous-payés américains, obligés d'exercer plusieurs métiers. Si vous êtes francophone aux États-Unis, parents ou parents d'élèves dans le public, bien évidemment, vous pourrez participer.